RFI.
Spotkania europejskie.
Rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europej.
Stawrodromy z Europy.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe pour une émission quelque peu exceptionnelle puisque nous n'accueillerons qu'un seul ou plutôt qu'une seule invitée, la présidente de l'Estonie, Kersti Kaljulaid. Elle était à Paris dimanche dernier, 11 novembre, à l'occasion des cérémonies du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale et elle nous a longuement reçus. Carrefour de l'Europe vous propose donc de découvrir l'Estonie à travers sa présidente. L'Estonie, le plus septentrional, le plus petit et le moins peuplé des États baltes, le grand voisin russe qui a dominé le pays pendant 2 siècles et qui du temps de l'Union soviétique l'a occupé pendant 50 ans reste très présent dans l'esprit des Estoniens, d'autant plus que près de 30% de la population est russophone. Mais depuis, l'Estonie a adhéré à l'OTAN et à l'Union européenne et Tallinn est devenue la capitale d'une start-up nation leader en Europe dans le domaine du numérique. Kersti Kaljulaid, la présidente de l'Estonie, est le grand témoin de Carrefour de l'Europe. Bonjour Madame la Présidente.
Bonjour.
L'année 1918 et plus précisément encore le 11 novembre est une date importante pour l'Estonie et pour les Estoniens.
C'est le jour quand l'Estonie a déclaré notre indépendance, notre république et république démocratique. On a aussi déclaré que c'est une république où habitent beaucoup de nations. Notre déclaration d'indépendance a commencé avec une sentence qui a dit « pour toutes les nations d'Estonie ». Et c'était assez avancé, moi je trouve.
Alors ça veut dire toutes les nations d'Estonie, il y avait évidemment des Estoniens, forcément
les Estoniens, des Russes. Les Russes et beaucoup des autres. En Estonie, on a toujours eu aussi les Ukrainiens et les autres nations, les Juifs bien sûr. Et on a supporté que notre république démocratique va reconnaître tous les droits de toutes les nations.
Alors, si l'Estonie devenait indépendante en 1918, ça veut dire qu'avant, elle était sous la domination, sous l'occupation des Russes.
On peut dire, oui, on ne peut pas dire en cette étape que c'était une occupation. On était pour longtemps sur l'influence d'Allemand, l'ordre d'Allemand. Mais après ça, bien sûr, on était une partie du royaume de la Russie, la Russie impériale. Sans que toutes ces perturbances dans le monde entier pendant la Première Guerre mondiale nous a donné une opportunité. Mais en fait, la recherche des libertés a commencé déjà bien avant, oui, dans le 19e siècle. Par exemple, la fête de chant d'Estonie a commencé, la première fête était 1869. Avant ça, on a déjà beaucoup discuté qu'est-ce que c'est l'Estonie, qui sont les Estoniens, est-ce qu'un jour on peut avoir notre État indépendant. Toutes ces discussions étaient déjà longtemps en Estonie, plus que 150 ans bien sûr.
Justement, donc pendant environ 200 ans, il y a eu une domination russe et la nation estonienne a survécu à un certain nombre de dominations, d'occupations, on va y revenir. Comment ça s'explique? Qu'est-ce qui fait que la nation estonienne a survécu? C'est la langue, c'est la religion. Comment se fait-il que la nation a survécu sans l'existence d'un État?
C'est la langue, peut-être. La langue estonienne et la langue de Finlande,
oui,
finlandaise,
proche, hein,
on est proche, en
un
fait.
Un Finlandais
oui.
peut comprendre un Estonien
oui.
et un Estonien
oui,
peut comprendre un
exactement.
Finlandais, plus ou moins.
Et c'est assez distant aussi. Donc, c'est plus difficile, par exemple, de mêler ou submerger dans la langue russe parce que c'est une langue de totalement différent. Donc, avec notre langue, mais aussi, on a trouvé beaucoup de support aussi parmi nos hommes religieux qui nous ont aidés à comprendre que même la langue estonienne peut être écrite. On a eu les poètes qui ont demandé le droit de faire leur travail en notre langue. Donc, moi, je pense que c'est la langue. Mais on est convaincu que déjà, il y a 5000 ans que les Estoniens habitent la même place en Europe. Donc, peut-être il y a quelque chose.
Et on les appelle déjà les Estoniens, non?
Oui, Oui, c'est ce qu'on pense. On a fait beaucoup d'analyses et ça se trouve que les Finlandaises et les Estoniens, on est venus des montagnes de l'Ural. Et il y en a en fait beaucoup de petites nations encore dans la Russie qui sont fenno-ugriques comme nous, comme les Finlandaises, comme les Hongrois en fait. Donc c'est un grand groupe de langues. Mais seulement trois ont leur propre état en ce moment.
La Finlande, l'Estonie.
L'Estonie et l'Hongrie.
Et l'Hongrie, voilà. Alors, oui. En 1918, l'Estonie devient indépendante. C'est une indépendance qui dure très peu de temps, une vingtaine d'années.
En fait, premièrement, on a eu une guerre de liberté pendant 2 ans. C'est seulement en 1920 qu'on a pu signer un accord de paix avec la Russie. Bolchevique en ce moment. Et après ça, on a pu commencer un développement paisible de notre pays. Mais bien sûr, c'est juste duré pour 20 ans. Et on était, après la Deuxième Guerre mondiale, on était occupé par l'Union soviétique pour 50 ans. Donc on a un État qui a 5 ans, mais quand même, une moitié de cette période, on était occupé.
Et l'Estonie redevient indépendante en 1991.
Oui, c'est vrai. Mais moi, je sais que toute cette période soviétique, on a su qu'on était un État libre, que l'occupation ne pourrait devenir permanente parce qu'aucun pays démocratique n'a pas reconnu notre occupation ou l'Estonie comme partie intégrée dans l'Union soviétique. C'était connu comme occupation. Et donc, quand l'Union soviétique a collapsé comme c'était...
A disparu,
on a immédiatement saisi cette opportunité et nous sommes réintégrés en Europe. Où est notre propre place? Si on regarde notre littérature, notre peinture, nos artistes, vous donne une idée que l'Estonie est vraiment un pays européen.
On l'a déjà compris, quand on parle de l'Estonie, à un moment, et très rapidement, on parle de la Russie. La Russie, c'est évidemment le très grand voisin de l'Estonie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que la Russie reste une menace pour l'Estonie ?
Premièrement, il faut dire que la Russie est notre pays voisin. Ils sont une grande culture. On a beaucoup des hommes et femmes en Estonie qui ont liaison directe avec la Russie. Ils sont leur famille en Russie, par exemple.
On va parler effectivement des russophones qui vivent en Estonie un peu plus tard.
Mais il faut parler de ça avant qu'on dise que, bien sûr, on regrette que le régime du président Vladimir Poutine ne donne pas une opportunité de développer démocratiquement pour leur peuple. Et ça, on regrette parce qu'on n'a pas pensé que ça va aller comme ça. Quand le président Yeltsin a reconnu, par exemple, l'indépendance des Pays-Baltes et l'Estonie parmi eux, donc on a pensé que maintenant, on va avoir une voisine avec qui on peut développer nos démocraties. On n'a pas pensé que ça va aller comme ça. On était tous optimistes en Estonie en ce moment. Et donc, c'est pour nous une histoire difficile que ce n'était pas le cas aujourd'hui. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il n'y a pas de démocratie en Russie, il n'y a pas d'élections libres en Russie. Et on a la Russie qui ne respecte pas la loi internationale. Et c'est le plus grand problème, pas seulement pour les voisins, mais pour toute l'Europe, tous les pays qui sont démocratiques et qui respectent, par exemple, les actes Helsinki.
Alors, est-ce que vous diriez aujourd'hui que la Russie reste une menace pour l'Estonie et pour les Pays-Baltes d'une
manière ? Je ne peux pas dire que pour les Pays-Baltes ou l'Estonie, il faut dire que la Russie, en ce moment, et on regrette que c'est comme ça, reste une menace pour notre système de loi internationale, de notre système, comment on garde le pays dans tout le monde. Regardez la Géorgie, regardez l'Ukraine, finalement, regardez Salisbury. Mais c'est intéressant que dans ce siècle, le risque n'est pas seulement pour les voisins, le risque est partout. On a une architecture de sécurité qu'on a construite après la Deuxième Guerre mondiale. Et pour quelque raison, président Poutine le menace. On ne sait pas pourquoi. Mais on ne peut pas dire que les Pays-Baltes ont un risque plus grand que les autres. On peut voir que toutes ces perturbations avec notre démocratie, toutes les questions, est-ce que la Russie peut menacer le processus démocratique dans tous les pays, ils ne sont pas liés géographiquement, pas du tout. C'est le nouvel siècle nous donne une toute différente compréhension des risques pour notre loi internationale. C'est pas géographique, pas du tout.
Vous parliez de perturbation. L'Estonie a connu une forme de perturbation, d'attaque en 2007 tout son système d'informatique et numérique, enfin le système étatique de l'État estonien. C'était une attaque directe de la Russie ou pas?
C'était une attaque directe. On a pu aussi voir d'où c'était venu en ce moment. Et aussi, il faut dire que 2007, c'était seulement l'Estonie dans tout le monde qui a pu connaître cette attaque. Parce que tous les autres États sont en papier, sont analogues. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, on n'a pas plus juste le risque classique sur le numérique, quelqu'un attaque votre système, mais on a aussi un risque hybride, quelqu'un attaque par l'information ou les faux faits, vos discussions dans votre pays. Donc il y a les nuances qui n'existent pas en 2007, ou on peut dire ils ont toujours existé dans le monde analogue. Aussi.
Alors, on l'a évoqué brièvement, en Estonie, il y a une population russophone non négligeable, environ 30% de la population. C'est vrai que si on se balade dans les rues de Tallinn, on entend parler le russe, mais si on va plus à l'aise vers Narva, par exemple, alors là, on entend d'abord parler le russe et ensuite l'estonien. Quel est le niveau d'intégration de la population russophone aujourd'hui en Estonie?
L'intégration des populations russophones en Estonie pendant ces 30 ans, ce n'était pas toujours simple, parce que c'est bien sûr que beaucoup de monde en Estonie qui est venu pendant la période soviétique, ils n'ont pas jamais pensé qu'il faut apprendre la langue estonienne, il faut faire apprendre ces langues pour les enfants. Mais on a passé cette étape. En ce moment, on n'a pas de problème qu'il y a de chance qu'ils ne veulent pas apprendre la langue. Mais en ce moment, on discute plus quand va venir ce jour, quand on va avoir seulement un système d'école, l'école en langue estonienne. Et ce ne sont pas nos citoyens qui parlent le russe à la maison qui sont contre d'avoir un système uni. Mais on a des problèmes de capacité de faire joindre les deux systèmes. Mais on cherche une solution pour cette discussion. Voilà, donc on a fait beaucoup de travail sur l'intégration. Les Estoniens, les Russes, les Ukrainiens, tout le monde a fait cet effort pour comprendre mieux qu'est-ce que c'est l'intégration. Et bien sûr, l'intégration, ce n'est pas ça qu'à la maison. Il faut pas parler en la russe, l'ukrainienne ou azerbaïdjan ou quelque autre langue. Mais on a qu'une seule langue officielle en Estonie, c'est l'estonien.
C'est l'estonien. Alors, vous l'avez expliqué fort bien, toute une partie de la population qui vivait en Estonie, qui était russophone, qui ne parlait pas l'estonien, et pour avoir la citoyenneté estonienne, il fallait parler l'estonien. Et cette population qui ne parlait pas l'estonien, c'était une population dite un peu grise, elle n'avait pas le passeport estonien,
oui,
elle avait ce fameux passeport gris.
En fait, on peut dire que quand on a commencé il y a 25 ans, on a eu 240 000 personnes qui ont un passeport gris. Maintenant, ce nombre a tombé trois fois. Il ne reste que 80 000 de ces habitants d'Estonie qui n'ont pas la citoyenneté. Mais il faut aussi comprendre que ce passeport est le plus libre passeport de toute l'Europe. Et c'est seulement pour ça qu'ils ne changent pas. Il y a beaucoup de chances parmi eux qui parlent l'estonien. Mais comme avec ce passeport gris, on peut voyager en Russie sans visa, en Europe sans visa. Pourquoi changer? Et évidemment, il n'y a pas aucun risque d'être maltraité en Estonie. si on ne change pas. Autrement, peut-être, ils changeraient. Mais comme c'est le passeport le plus libre de l'Europe, ils le gardent aussi. Mais on voit que maintenant, que tous les nouveaux-nés ont une citoyenneté estonienne, même si les parents ont un passeport gris, la situation va bien sûr changer. Mais on a de patience. Il faut avoir de patience dans ces situations post-occupation, c'est vrai. Et on a eu de patience, il faut dire. Et aussi, beaucoup de monde vient en Estonie demandant nous et nos habitants qui parlent la Russie, est-ce que vous pensez comme M. Poutine? Et c'est l'erreur plus commune que les journalistes font. Si vous êtes russe, si vous aimez votre patrimoine, si vous aimez la culture de la Russie, si vous parlez la russe à la maison, si vous faisiez borscht à la maison, donc vous pensez comme M. Poutine. Et moi, je trouve que ça m'heurtait beaucoup, en fait, que c'est comme ça. Et ça me fait vraiment malheureux qu'on peut penser comme ça. Parce que notre population qui parle la russe, ils aiment leur liberté en Europe, leur démocratie, comme tous les autres citoyens, et aussi comme tous les autres Russes en Allemagne, en France, et dans les autres pays. Ils ont une grande communauté des expatriés, comme on sait.
Est-ce que vous diriez, d'une manière générale, que l'Union européenne est naïve à l'égard de la Russie de Vladimir Poutine?
Je pense qu'après la guerre de Géorgie, on était naïf, oui. Pas nous, dans les pays baltes ou Pologne, mais autrement, oui, on était naïfs. On a rentré dans le mode normal, le business as usual, très rapidement. Et bien sûr que Moscou a pu voir que si Moscou agite comme ils sont agis en Géorgie, rien n'arrive. Mais ce n'était pas la même chose après la Crimée, après l'occupation partielle de la territoire d'Ukraine. Donc, on a gardé maintenant nos sanctions, on a gardé notre unité, on a réagi après Salisbury aussi, tout le monde a réagi rapidement. Donc, on peut voir qu'il n'y a plus de naïveté en ce qui on pense de la régime de la Russie, président Poutine en ce moment.
Alors, l'Union européenne a pris des sanctions contre la Russie après cette occupation de la Crimée. Il faut maintenir ces sanctions?
Oui, parce que c'est pas la menace contre l'Ukraine, c'est la menace contre notre système international de garder le pays, de garder les droits des États. Même s'ils sont les États assez aseptiques qui ne peuvent pas s'imposer sur leur pouvoir militaire, on a reconnu les droits des nations, des États, et donc il faut garder ce système. Et c'est pour ça qu'il faut avoir les sanctions en place. Ce n'est pas seulement pour l'Ukraine.
On va faire une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, juste 3 minutes, le temps de prendre connaissance des toutes dernières nouvelles de la planète, avant de vous retrouver, Madame la Présidente Kersti Kalulait.
Sihukestään arvattakse kurja karja top. Ei mä usu temast talva ilma peal. Kui sa ütled ronga isa, valge lint võib tõsta kisa. Kui sa ütled ronga ema, siis sa solvad ronga ema. Must rong, lenda, lenda, lenda must rong. Lenda, lenda, lenda must rong.
Europejskie.
Cruzement de Europa.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Guillaume Meunier.
Rebonjour, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Nous sommes toujours avec Kersti Kaljulaid, la présidente de l'Estonie. L'Estonie le plus septentrional, le plus petit et le moins peuplé des États baltes, où le grand voisin russe qui a dominé le pays pendant 2 siècles et qui du temps de l'Union soviétique l'a occupé pendant 50 ans, reste très présent dans l'esprit des Estoniens, d'autant plus que près de 30% de la population est russophone. Mais depuis, l'Estonie a adhéré à l'OTAN et à l'Union européenne et Tallinn est devenue la capitale d'une start-up nation, leader en Europe dans le domaine du numérique. Alors, justement, Madame la Présidente, depuis que l'Estonie a retrouvé son indépendance en 1991, donc après 50 ans d'occupation soviétique, il y a eu 2 moments forts dans l'histoire de votre pays que j'évoquais à l'instant, l'adhésion à l'Union européenne et l'adhésion à l'OTAN. Alors, dans le cœur des Estoniens, quelle est l'adhésion la plus importante ?
Il n'existait pas ces discussions dans notre pays, les deux bien sûr. Et premièrement, comme j'ai déjà dit, culturellement, l'Estonie aidait l'Europe. Notre culture, notre littérature, notre théâtre, c'est toute une partie de la culture de l'Europe. Donc notre place est dans l'Europe et c'est clair pour nous. L'Union européenne, ça nous représente l'Europe. L'OTAN, ça nous représente l'Europe protégée. Donc, bien sûr, les deux. Mais il faut aussi pas oublier l'ONU. Il existe aussi pour discuter nos problèmes globaux.
Alors, l'OTAN est très présente en Estonie. Il y a un certain nombre de troupes, quelques centaines de soldats de l'OTAN. Il y a même des Français qui ont stationné en Estonie pendant quelques mois pour assurer l'idée d'une sécurité européenne à travers l'OTAN. C'est très important pour vous ?
Oui, c'est très important, mais pas seulement pour nous. Parce que l'OTAN se protège en intégration, intégrée. C'est le territoire de l'OTAN qui on protège en Estonie. Mais bien sûr, grand merci pour votre gouvernance, pour ces décisions de participer dans l'FP de l'OTAN en Estonie. On est vraiment heureux d'avoir vos soldats en Estonie. Mais aussi, on travaille dans tout ce monde entier, pas seulement en Estonie. Par exemple, l'Estonie est aussi une partie de mission Barkhane à Mali avec les Français, avec vos soldats. Donc, on veut toujours contribuer en sécurité globale comme on voit ça dans un système intégré des pays démocratiques qui essaie de garder des pays. Et comme ça, on participe, et bien sûr, vous participez dans notre FP aussi. Mais c'est tout un même système. Et on protège nous tous. En Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Mali, on protège nous tous. On travaille, oui, c'est un ensemble.
Que change la présidence d'un point de vue estonien ? Que change la présidence de Donald Trump, qui est quand même le premier président américain qui entend se soustraire de la production de l'Europe ? Vous faites confiance à Donald Trump ?
On a vu une politique étrangère d'administration de Donald Trump qui était vraiment directe et vraiment active dans notre coin notre coin de l'Europe. On a aussi écouté président Trump à dire dans une conférence de presse à la Maison Blanche il y a moins qu'un an que les États-Unis ont toujours soutenu les pays baltes. Et il continuera à soutenir les pays baltes, notre indépendance et aussi ils comprennent vraiment bien nos défis de sécurité. Mais c'est bien sûr que si les relations entre les États-Unis et la Russie n'ont pas si bien en ce moment, il faut aussi comprendre que le risque pour notre région est augmenté. Il faut réagir. Et l'OTAN a toujours su réagir à un changement de notre compréhension des risques dans notre région. Il y a un certain aspect d'incompréhension dans notre côté. Pourquoi toutes ces actions en Ukraine, en Géorgie, à Salisbury, on ne comprend pas. Donc, il faut être vigilant en ce moment.
Alors, j'ai bien compris que vous faites toujours confiance au président Trump, on est bien d'accord, hein ? Vous lui faites
confiance ?
On
n'a vu pas aucun signe qu'ils ont perdu leur
engagement
dans notre région. Donc oui.
Alors néanmoins, le président Macron appelle à la constitution d'une armée européenne. Il l'a déclaré il y a quelques jours face justement à cette menace diffuse de pouvoirs autoritaires. Il a cité les pouvoirs russes, chinois, et puis il a cité le désengagement américain. Il a raison, le président Macron, d'appeler à la création d'une armée européenne qui, pour l'instant, est loin d'exister.
Ce que moi j'ai compris, ce n'était pas exactement ça que le président Macron a dit, qu'il faut agir contre nos alliés dans l'autre côté de l'Atlantique. Moi j'ai compris que le président Macron, comme les autres dirigeants de l'Europe, ont discuté pendant longtemps que peut-être il faut avoir une coopération militaire parmi les pays de l'Union européenne. Et on a pendant la présidence de la Conseil européen d'Estonie créé le PESCO. Et voilà, il faut développer le PESCO, il faut trouver les autres moyens
de... La politique européenne de sécurité et de défense.
Oui, il faut développer ces coopérations parmi les pays de l'UE. Et si c'est nécessaire, il faut aussi avoir des ressources, comme on a par exemple pour cohésion économique. Il faut avoir aussi les ressources pour cohésion militaire. Si on veut être sûr que rien ne peut arriver dans les pays baltes, il faut aussi peut-être penser que dans le sein de l'UE, on peut avoir le programme de cohésion militaire comme on a pour l'économie. Donc peut-être il faut utiliser ces capacités de l'UE de redistribuer des ressources que l'OTAN n'ont pas. Donc, il faut merger les capacités de l'UE et de l'OTAN. Donc, moi, j'ai rien contre les coopérations militaires dans l'UE.
Si je vous ai bien compris, vous faites confiance au président Trump, mais en même temps, le président Macron a raison de parler d'une armée européenne, en tout cas d'un renforcement de la défense européenne.
Je ne pense pas qu'on parle de l'armée européenne, mais je suis sûr que la coopération militaire qui va jusqu'à la redistribution des capacités parmi les pays de l'UE, ce sera bienvenu dans notre région.
Comment se sent l'Estonie en Europe? Je pose la question à la présidente d'un petit pays. L'Estonie est peuplée par 1 300 000 habitants. Et on dit toujours que dans l'Union européenne, les petits pays reprochent toujours aux grands de faire la grande politique. Quand on pense aux grands pays, on pense évidemment à l'Allemagne et à la France. Comment se sent l'Estonie dans l'Union européenne? Un petit pays au milieu de quelques grands pays.
Pendant notre présidence du Conseil, on a beaucoup plaisanté que ça nous manque une million de gens pour faire tout ce travail, mais on l'a fait quand même, donc on arrive.
Vous faites référence à la présidence de l'Union européenne pendant l'Estonie.
Oui, on arrive, mais en fait, l'État estonien est très efficace et tout le monde fait ce qu'il faut faire. Aucune ne parle que mon temps de travail c'est fini, donc il faut aller à la maison. Pendant la présidence de l'Union européenne, tout le monde a travaillé tout le temps, même moi.
Ce que vous voulez dire, c'est que même un petit pays comme l'Estonie se sent bien à l'aise et a trouvé sa place dans l'Union européenne.
Oui, c'est vrai. Et il faut juste être efficace et il faut juste ne pas penser que quelle est la description de mon travail. Il faut juste faire tout ce qu'il faut. Et c'est comment on arrive. Et tous les autres pays, petits pays en Europe arrivent exactement comme ça. C'est peut-être difficile à comprendre, mais on arrive par notre enthousiasme et notre support pour l'Union européenne.
Alors comment analysez-vous la fracture Est-Ouest de l'Europe? C'est-à-dire pour simplifier la fracture entre les pays du groupe de Visegrad, et d'abord la Hongrie et la Pologne, et puis les pays de l'Europe de l'Ouest. Avec un désaccord sur quand même deux thèmes, l'immigration, le problème d'immigration, et puis la conception même, l'existence même, le développement même de l'Union européenne.
On ne peut pas dire qu'il existe toujours une division East-West. Ça n'existe pas. Il y a différentes questions. Il y a les pays qui savent mieux travailler avec les problèmes d'immigration. Et ce sont les pays qui ont participé dans le premier tour de fonds migratoires de l'Union européenne. C'était, mais de ce programme, les pays de l'Europe-Est ont été exclus. L'Estonie inclus. On n'était pas parti de ça. Donc, quand la crise migratoire a commencé, on a dû faire rapidement un système tout nouveau. On n'a pas eu aucun système pour recevoir les migrants. Mais on est arrivé. aussi en parlant avec l'Italie, avec la Grèce, on a rapidement pu tisser une network pour aider les migrants en Estonie, par exemple. Mais ça nous a pris du temps. Mais on est arrivé et maintenant on arrive. Et c'est pas plus un problème interne en Estonie. Comment on peut aider ces gens qui cherchent l'asile en Estonie?
Comment expliquez-vous que l'Estonie et d'une manière générale les pays baltes ont accueilli proportionnellement un certain nombre de migrants dans le cadre notamment de la relocalisation de ces migrants et que les pays du groupe de Visegrad, donc Pologne, Hongrie, République tchèque et Slovaquie ne l'ont pas fait? C'est quoi la différence d'approche entre les pays baltes et notamment l'Estonie et les pays du groupe de Visegrad?
C'est pas à moi d'expliquer ça, c'est aux ces pays d'expliquer leur position et c'est pour ça qu'on a l'Union européenne. On peut tous arriver au Justus Lipsus, maintenant c'est le grand œuf où on prend nos discussions et nos décisions et c'est pour chaque État d'expliquer leur position et moi j'explique la position d'Estonie.
Alors c'est vrai que la devise de l'Union européenne c'est unie dans la diversité. Mais quelqu'un comme Monsieur Orban, le Premier ministre hongrois, il pose un problème au sein de l'Union européenne ou pas?
Moi je suis une démocrate libérale. Mais moi je ne vais pas discuter la politique interne de notre pays, de l'Europe.
C'est-à-dire? Est-ce que M. Orban a sa place en Europe ou pas?
M. Orban a sa place en Europe parce que c'est comme ça qu'on a décidé. Quand l'Europe, l'Union européenne a élargi l'Hongrie et les autres pays, on est devenu le membre égal de l'Union européenne. Donc maintenant, on est aussi une partie de ce système de discussion, de ce système de prendre décisions, ce que l'Union européenne est. Et aussi, bien sûr, on a nos valeurs et il faut continuer à discuter. Est-ce que nos valeurs sont toujours la base pour l'Union européenne? Pour l'Estonie, ces valeurs sont exactement importantes parce que comme un pays si petit, notre seul intérêt est nos valeurs. Donc on supporte les valeurs de démocratie libérale en l'Union européenne.
Alors justement, à propos de M. Orban et de la Hongrie, les députés européens ont voté l'article 7 du traité de l'Union européenne. Cet article, en gros, il explique que quand il y a des dérives, eh bien, le pays sera sanctionné. On ne va pas rentrer dans le détail des sanctions. Ça va être maintenant au tour du Conseil européen, c'est-à-dire des chefs d'État et de gouvernement, de prendre une décision à propos de la Hongrie et de cet article 7 qui mettrait la Hongrie un peu sur la touche. Quel est le point de vue, la position de l'Estonie sur ce sujet?
Si on pense que le Parlement européen, il y a des fractions dans ce Parlement, comme dans toutes les autres fractions. Et les parlementaires qui ont venu d'Estonie dans le Parlement européen formant aussi partie de différentes fractions. Donc, sur ce qui décide le Parlement européen, on n'a pas une position commune en Estonie. Tout le monde discute avec leur fraction, mais ce qui reste notre but, c'est d'être sûr que nos valeurs européennes n'ont pas heurté pendant aucun moment dans ce processus-ci. Il faut discuter, il faut toujours comprendre que l'Union européenne, ce n'est pas une union des intérêts, c'est l'union des valeurs. Et c'est important pour nous en Estonie.
Et est-ce que M. Orban remet en cause ces valeurs européennes aujourd'hui?
Pour moi, il y a des choses que moi, je n'aimerais pas voir dans mon pays.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles.
Carrefour de l'Europe, nous sommes toujours avec notre grand témoin, la présidente de l'Estonie, Kersti Kaljulaid. Alors l'Estonie, à l'inverse des pays du groupe de Visegrad, a l'euro en partage avec 18 autres pays de l'Union. La monnaie européenne est parfois critiquée. L'euro, c'est plutôt une opportunité, une chance pour l'économie estonienne?
Bien sûr, mais il faut aussi comprendre que l'Estonie a opéré une currency board depuis 91 déjà, donc on était lié à l'euro quand l'euro est né. En fait, techniquement, on était dans la zone euro bien avant qu'on a pu joindre après les critères ont été mettre par Estonie en 2011. Donc, il faut comprendre que pour nous, c'était toujours notre système monétaire, même bien avant que l'euro était créé. Donc, beaucoup de monde demande nous, pourquoi joindre pendant la crise de l'euro? Mais c'est exactement pour ça. On a utilisé, en fait, l'euro comme même parce que c'était la currency board. Donc, mieux d'être dans la zone euro et discuter avec les autres notre futur commun.
L'euro protège l'économie estonienne.
Bien sûr, parce qu'avec une économie qui est une économie exporteur, jusqu'à 80% de notre économie est d'export. C'est plus simple si on fait partie d'un régime monétaire commun comme l'euro. Bien sûr, ça nous donne stabilité.
Alors, il y a un certain nombre de chefs d'État qui estiment que la zone euro ne fonctionne pas très bien. C'est encore le cas d'Emmanuel Macron qui milite pour un approfondissement de la zone euro qui passerait par un ministre de la zone euro, un budget de la zone euro, voire une mise en commun des dettes de la zone euro. Vous en pensez quoi ?
Comme pour un petit pays, les nouvelles institutions, bien sûr, sont difficiles à gérer. On ne cherche pas de créer de nouvelles institutions dans l'Union européenne. Mais bien sûr, quand la zone euro a été créée, les compréhensions techniques était déjà là, qu'il faut aller plus loin, il faut créer plus de systèmes communs pour protéger les zones euro.
Il faut
mais,
aller plus loin.
Mais ce n'était pas visible pour nos citoyens de l'Europe avant la crise. Après la crise, on sait qu'on peut expliquer aussi pour nos électeurs, pour nos citoyens, que maintenant vous comprenez que les zones euro, il faut continuer à développer, autrement ce n'est pas sûr. Donc on supporte qu'on va avoir une union monétaire plus commune avec plus de systèmes, par exemple, de protéger
L'épargne
d'argent des citoyens dans les banques.
Oui, l'épargne des citoyens.
Oui, bien sûr. Donc, il faut chercher une zone euro plus commune. Et c'est maintenant évident aussi pour notre citoyen après la crise. Donc, il faut avancer. Il y a des choses qu'on a décidées il y a 2012, mais pas encore mises en œuvre. Donc, il faut continuer. En ça, je suis d'accord avec le président Macron.
Alors, on présente généralement votre pays, l'Estonie, comme le pays du numérique. Alors, pour résumer d'une seule phrase, 99% des démarches administratives se font en ligne. Et vous, en tant que président de l'Estonie, comme tous les citoyens estoniens, vous avez cette fameuse carte d'identité qui ressemble à une petite carte de crédit avec laquelle on peut pratiquement tout faire, sauf se marier et divorcer, si je crois.
Oui. Et vous allez l'avoir aussi. Moi, j'ai compris qu'en France, l'identité digitale va naître l'année prochaine. Je vous félicite parce que aller chercher tous les papiers dans tous les offices de gouvernement, c'est pas si bien. On sauve 4 ou 5 jours par an, par citoyen, par faisant tout ça numériquement. Et moi, je suis sûr que les gouvernements n'ont pas aucune autre possibilité que de créer ces identités numériques parce que nos gens et nos entreprises actent et transactent dans l'Internet. Donc, il faut lui donner sécurité dans l'Internet. Et avec une identité digitale, on donne ces sécurités. Comme dans le monde analogue, on a un passeport. Maintenant, il faut avoir un passeport dans le monde numérique. Et c'est ça que votre gouvernement va vous donner et c'est ça que notre gouvernement a déjà donné il y a 18 ans.
Alors, vous avez l'air très très sûr qu'on va avoir une carte d'identité à passeport numérique. Alors, c'est peut-être parce que Édouard Philippe, le Premier ministre français, sa première visite après sa nomination en tant que Premier ministre, ça a été justement d'aller à Tallinn, d'aller en Estonie, où vous lui avez expliqué comment ça marche, c'est ça, vous l'avez convaincu?
Moi, j'étais vraiment fier que c'était la première visite de lui, mais il est venu déjà, il a su déjà qu'est-ce qu'il y a en Estonie à côté numérique. Donc, peut-être c'est pour ça qu'il a fait sa première visite en Estonie. Mais il était déjà convaincu. Et c'est ça que votre gouvernement a compris. Bien sans l'aide estonienne, mais on peut aider techniquement, on peut expliquer comment on a fait ça. Et ce qui est spécial en Estonie, c'est qu'on n'a pas une identité seulement pour communiquer avec l'État. Les mêmes identités, ça marche aussi pour les services privés. Et ça nous a donné un système commun qu'on utilise chaque jour. On utilise ça pour tous les services dans notre pays. Donc, on est habile utilisant ces cartes d'identité. Aussi nos retraités, aussi nos jeunes, tout le monde.
Alors, vous avez inventé évidemment la carte d'identité numérique, on vient de l'expliquer, puis aussi la e-résidence, c'est-à-dire, en gros, un passeport virtuel qu'un citoyen non estonien pourrait acquérir pour créer, pourquoi pas, une y entreprise et peut-être devenir un résident fiscal. Alors, quel est le risque pour que l'Estonie ne devienne pas un paradis fiscal à travers ce système de e-résidence? Je vais vous lire une petite note confidentielle, mais pas si confidentielle que ça, de l'ambassade de France en Estonie. Je vous la lis. « Même si l'e-résidence constitue le fer de lance de l'engagement estonien en faveur du numérique, il paraît dès lors délicat d'adhérer sans réserve à un programme qui pourrait favoriser l'évasion fiscale. » Est-ce que l'avenir de l'Estonie, c'est de devenir un paradis fiscal à travers ce système de e-résidence?
Bien sûr que non. Quand on parle d'e-résidence, moi, j'ajoute toujours, c'est pas un paradis fiscal. En fait, en Estonie, les entreprises travaillent vraiment avec notre agence d'impôt, notre tax board. Et si vous avez une transaction qui surpasse 1000 euros,
oui,
toutes ces transactions sont immédiatement connues par notre tax board. Immédiatement. Notre tax board est plus ouverte avec nos entreprises font beaucoup de leur travail par des systèmes de tax board. Donc, on est vraiment transparent, on est vraiment rapide aussi pour gérer combien il faut payer les impôts. Ça marche rapide et transparent, mais ce n'est pas un paradis fiscal, bien sûr que non. Notre taux des impôts sont dans le niveau européen, par exemple, le taux d'impôt social est 33%. Ce n'est pas un paradis fiscal, oubliez ça. Mais qu'est-ce que résidence nous donne ou donne à nos e-résidences? Ce n'est pas une citoyenneté, il faut comprendre ça aussi. Ça leur donne accès à notre système d'identification numérique. Et avec ça, on peut bien sûr établir les entreprises en Estonie. Mais les entreprises établies par les résidences e-résidents ont dans le même régime que toutes les autres entreprises en Estonie. C'est le régime connu par l'Union européenne et le régime qui, en fait, ne sait pas devenir avantageuse quand on discute le niveau de taxation et impôts.
Un mot sur les GAFA, il faut les taxer?
C'est plus radical que vous pensez, en fait. Et il faut décider où il faut payer les impôts. C'est une discussion globale, générale. Il faut passer par l'OECD pour discuter tout ça. Donc, la question simple, c'est s'il vaut taxer le GAFA. Mais le problème réel est si tout le monde travaille globalement, comment faire durer nos systèmes sociaux qui ont établi pendant les périodes industrielles? Mais ces périodes, c'est passé. Donc, il faut radicalement changer notre système d'impôt. Autrement, on ne peut pas continuer avec notre système social. Et c'est urgent, c'est assez urgent, parce que chaque jour, ici, en Estonie, au Royaume-Uni, beaucoup de gens décident d'aller indépendant. Et avec ça, les plus riches parmi eux, ils achètent la sécurité sociale privée. Mais les autres deviennent sans support social.
Sans couverture sociale.
Donc, il faut penser, et là, l'Estonie ne peut pas agir seule. Il faut agir avec tous les autres pays développés du monde.
Alors, on arrive au terme de cet entretien. Vu de Paris, peut-être encore plus vu de Madrid ou vu de Lisbonne, on a tendance à globaliser, on dit, les pays baltes. Alors, on sait qu'il y a l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, mais finalement, qu'est-ce qui les différencie, ces pays baltes? Qu'est-ce qui fait qu'un Estonien, qu'une Estonienne comme vous, ne ressemble pas à une Lettonne ou une Lituanienne?
Non, en fait, ils n'ont pas le finno-ougric. Moi, je ressemble plus de Finlandais, je pense, parce que je suis finno-ougric. Les Lettoniens, ils sont nos amis, comme les Français, les Suédoises et tous les autres, et les Grecs. Mais il n'y a pas aucune caractère national qui est commun pour les pays baltes. Seulement l'occupation soviétique, c'est commun pour nous. Et on bien sûr, on continue à supporter et les autres, tous les trois, et on travaille avec les autres pays baltes dans l'Union européenne, dans le monde entier, globalement aussi, parce qu'ils sont nos voisins plus tout simple, mais on les aime bien sûr aussi. Mais on ne peut pas dire qu'on a un caractère balte.
Le tourisme se développe en Estonie.
Oui.
Mais
venez voir.
Mais alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos auditeurs du monde entier? Venez en Estonie pour...
Pour la nature pure. Nature pure. C'est un pays qui est assez grand, comme les Néerlandaises. notre territoire est 4-5 000 km carrés avec une population d'un million. Donc, il y a beaucoup de place dans nos plages. C'est froid, bien sûr, mais on a plus de 5 km de plage en Estonie. On a des forêts où vous pourrez vous trouver toute seule pendant une semaine, si vous voulez. C'est un paradis naturel.
Avec le risque de croiser un ours, peut-être?
Il y a des ours, oui, mais l'ours n'attaque pas les hommes. Il n'aime pas faire ça. Ils n'ont pas une menace, bien sûr. Donc, venez voir. Il y a aussi une vieille ville qui est protégée par l'UNESCO, c'est Tallinn, la vieille ville de Tallinn. Tartu, c'est la ville d'université qui est établie déjà pendant le XVIIe siècle. Donc, venez voir, il y a beaucoup à connaître en Estonie. Venez aussi étudier dans nos universités, parce que l'université de Tartu, c'est parmi les mieux 3% des universités globalement. Donc, venez nombreux.
Merci Madame la Présidente d'avoir été au Carrefour de l'Europe, réalisation Guillaume Munier avec la complicité de Léo Lefrançois. Pour réécouter cette émission RFI.fr ou l'appli RFI Pure Radio, on reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Desesquelles, où que vous soyez à Tallinn, à Paris, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mais tout de suite, un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.